Radio Classique, les spécialistes.
Deux spécialistes ce matin au micro, bien sûr, Emmanuel Faux, le spécialiste d'actualité internationale. Il aura le micro dans 4 minutes exactement, mais d'abord Dimitri Pavlenko. Dimitri, ce matin dans la presse, on voit que le gouvernement a un plan massif de vaccination, dès que le vaccin, bien entendu, sera disponible. Je parle du vaccin Pfizer, hein, peut-être, a priori, mais pas forcément seulement. Alors, c'est toute la question. 90 millions de doses ont été préemptées, donc déjà préachetées, en quelque sorte. Ça pose quel problème industriel et économique, un plan pareil?
Bon, c'est gigantesque, Bernard, c'est gigantesque. Parce que 90 millions de doses pour la France,
pour la France
10,
hein.
10 à 15 milliards de doses pour la planète. Personne n'a jamais...
Alors qu'on n'a pas réussi à sortir assez de vaccins de la grippe ordinaire cette année, je rappelle.
Voilà,
quand même.
Vous posez la bonne question, Bernard, parce que combien de temps cela va-t-il prendre de fabriquer 10 à 15 milliards de doses? Quand serons-nous vaccinés? Je regardais par exemple en Inde, par exemple, vous savez, c'est un grand producteur de vaccins, l'Inde. Ils sont capables de produire 2 milliards et demi de doses potentiellement. Le problème, c'est que ce vaccin-là, en l'occurrence celui de Pfizer, vous le savez, il doit être conservé à moins 80 degrés. Et alors là, c'est un verrou extrêmement compliqué à surmonter, puisque cette logistique de chaîne du froid, eh bien, ça nécessite des investissements dans des super congélateurs qui coûte une fortune, sur lequel évidemment il y a une ruée mondiale, tout le monde veut en acheter en ce moment, et ça fait déjà plusieurs mois, parce que ceux qui connaissent un petit peu le domaine de ce sujet de la vaccination savaient qu'il y aurait ces conditions très particulières de conservation.
Mais donc ça veut dire que le pharmacien de quartier ici à Paris ou en province, non, il n'a pas le congélo à moins 80.
Non, ce sont
donc
des machines.
On est bien d'accord.
Ce sont des machines qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, Bernard. On a déjà vu les laboratoires hésiter à investir dans ces machines pour faire les fameux tests PCR compte tenu de leur coût. Vous imaginez bien que là, ça va se reproduire. Donc sur le plan pratique, c'est un cauchemar. Il y a la question du matériel. Les seringues sont des seringues en verre. On ne sait pas s'il y aura suffisamment de seringues pour injecter le fameux vaccin. La question des petites fioles, monodoses ou multidoses, ça aussi, ça fait 3 mois que... Qu'est-ce que je dis? 6 mois qu'a été identifié un risque de pénurie. Donc, outre la production du vaccin lui-même, il y a tous ces matériels annexes qui sont indispensables pour permettre cette vaccination.
Mais donc, à ce moment-là, vu les bémols que vous évoquez, Dimitri Pavlenko, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre une autre formule vaccinale dans quelques mois, peut-être au printemps 2021, qui soit pas celle de Pfizer forcément, mais plus utilisable?
Alors, c'est pour cela que c'est un petit peu la course du lièvre et de la tortue. Et le président de Sanofi France disait hier benoîtement, nous on sera prêt en juin 2021, dans 6 mois, mais notre vaccin, lui, se conservera normalement au frigo. Déjà, on fait sauter...
Comme un vaccin de grippe ordinaire.
Exactement. Déjà, on fait sauter le problème de la conservation à extrêmement basse température. Et puis, pour le reste, sur le plan industriel, tous ces laboratoires qui avancent, il y a une dizaine de projets, vous savez, qui sont en phase 3, vont se retrouver lorsque la production a déjà démarré. De toute façon, celui d'Oxford, qui est développé par AstraZeneca notamment, ils n'auront pas fini la phase 3 avant le mois de décembre, ils ont déjà lancé la production.
C'est un risque important. C'est inédit dans le monde de la vaccination.
Ah oui, tout à fait.
Être sûr complètement du produit avant de lancer la production.
Oui, alors que je regardais sur le site de Sanofi, ils disent bien que 70% du temps dans la production d'un vaccin est consacré précisément au contrôle.
Au contrôle
qualité. Donc là, on se dit que sur le contrôle qualité, ils vont faire attention, mais sur des évaluations qui vont être menées tambour battant. Et alors, juste pour vous dire, on s'imagine peut-être la France vaccinée dans 6 mois, disons 1 an. Bon, il faudra déjà lever les réticences de beaucoup de personnes.
15% des Français refusent toute vaccination.
Ouais, voilà.
Ça, ce sont les ultras. Et il y en a 30% de plus qui ont des doutes.
Voilà, et ce que disent les autorités de santé, qu'il faudrait 60 à 70% de la population vaccinée pour arriver à cette immunité collective. Les Indiens, eux, qui ont le vaccin sur place, dirais-je, n'envisagent pas une vaccination totale de la population avant la fin 2023. On en a donc pour encore un petit moment.
On en a pour un petit moment. Merci beaucoup pour cet éclairage, Dimitri Pavlenko. Emmanuel Faux, bonjour.
Bonjour Bernard.
Emmanuel, ce matin, vous souhaitez nous reparler en fait de la situation dans le Haut-Karabakh, car une semaine exactement après l'accord qui a mis fin à 1 mois et demi de combats extrêmement violents entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, bon, les forces arméniennes doivent évacuer les secteurs conquis par les Azéris, d'accord? Et ça, selon un calendrier très précis.
Oui, c'est malheur aux vaincus. Hein. Après l'humiliation de la déroute militaire, les Arméniens subissent la honte de l'exode, la douleur des civils qui doivent quitter leur maison pour laisser place au nouveau maître des lieux. Depuis jeudi, Bernard, on voit des files de voitures ininterrompues qui prennent la route de la frontière arménienne. Les galeries sont surchargées de meubles et de colis. Certains ont même déterré les cercueils de leurs proches pour les emporter dans le coffre arrière de leur véhicule. Et pour ne rien laisser aux vainqueurs, des dizaines de milliers d'habitants pratiquent la politique de la maison brûlée.
Oui.
Ils mettent le feu à leur habitation, car ces Arméniens vous expliquent qu'ils ne veulent surtout pas voir les Turcs, alliés des Azéris, s'installer dans leurs murs. Si nous revenons un jour, disent les plus optimistes, nous reconstruirons. Alors, quand on soldat arménien qui ont perdu 2300 de leurs hommes en 6 semaines, eh bien, ils vont boire le calice de la défaite jusqu'à la lie. Le cessez-le-feu signé le 9 novembre et qui vaut donc armistice, prévoit en effet que les 3 secteurs du Karabakh passés aux mains des forces azéries vont être évacués avant le 1er décembre. Le district le plus important qui entoure la capitale séparatiste, Stepanakert, devait l'être hier soir à minuit, mais dans un faux élan de générosité, les autorités de Bakou ont donné aux Arméniens 10 jours de plus pour partir. L'Azerbaïdjan affirme qu'il faut y voir la preuve de ses sentiments humanitaires.
Mais au-delà de cet exode massif que vous venez de nous décrire, Emmanuel, il faut parler aussi de l'immense désarroi de l'Arménie. L'Arménie a vraiment le sentiment aujourd'hui d'avoir été abandonnée à son sort.
Oui Bernard, avec l'impression même d'être revenu 30 ans en arrière, et du coup depuis que les armes se sont tues lundi dernier, les Arméniens manifestent tous les jours dans la capitale Yerevan. Ils protestent contre l'accord arraché à leur gouvernement sous l'égide de Moscou et de la Turquie, et ils dénoncent aussi la passivité des pays du groupe de Minsk, la France, les États-Unis, la Russie, qui étaient censés empêcher une nouvelle guerre du Karabakh. Or il est vrai que les Américains, on le sait, n'avaient en tête que leur élection présidentielle. Les Français se sont contentés de mises en garde verbales contre les Turcs qui avaient envoyé des mercenaires syriens combattre auprès de l'Azerbaïdjan. Quant à la Russie, elle a tenté de jouer les médiateurs entre les belligérants pour mieux empocher les dividendes de la paix. Et bien résultat, ce sont les forces russes qui seront chargées de contrôler le cessez-le-feu conclu la semaine dernière. Le Kremlin a commencé à déployer 2000 hommes sur le terrain qui ont reçu mandat de rester sur place pendant 5 ans. Une très belle opération pour Vladimir Poutine, qui semble être ainsi le seul et unique faiseur de paix, puisque le nom de la Turquie ne figure même pas dans l'accord final du cessez-le-feu.
Ouais, bien joué de la part de M. Poutine, mais enfin la Turquie apparaît aussi sur un autre front, celui de Chypre, puisqu'il s'est passé là-bas des choses intéressantes hier et que M. Erdogan maintenant plaide pour officiellement qu'il y ait 2 États à Chypre, au nord un État turc et au sud un État grec. Peut-être y reviendrez-vous dans une de vos chroniques prochainement, Emmanuel Faux. Merci en tout cas, on se retrouve avec vous demain Emmanuel, merci et bonne journée.
Demain,
il est 7h46, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est en visite à Paris aujourd'hui, à 9 semaines et demie exactement du changement de patron à la Maison-Blanche. C'est l'occasion pour Renaud Blanc de revenir sur des rencontres diplomatiques pour le moins délicates.